Chers amis, nous ouvrons le premier livre des rois, comme hier soir, dans le début du chapitre 17, 1 roi 17, nous en lisons les 10 premiers versets. 1 roi 17, les 10 premiers versets. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en Sébo, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Nous allons vers le Nouveau Testament et vers le quatrième évangile, l'évangile selon Jean, au chapitre 12, pour cueillir quelques paroles, solennelles même, je dirais, sur les lèvres de Jésus. Peu de temps avant que la croix ne se dresse dans les environs, les proches environs de Jérusalem. Jean chapitre 12, versets 23 à 26, où Jésus répond à une sollicitation de Grecs qui étaient ce qu'on appelle des prosélytes du judaïsme et qui avait un cœur ouvert qui cherchait et qui donc aurait tellement voulu en quelque sorte accaparer le Seigneur Jésus pour eux. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et un peu plus loin, au chapitre 14, il y a un prolongement de cette pensée de Jésus avec des éléments de langage concordants. Jean 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Avec l'idée ici qui n'apparaît pas dans le texte français, mais dans l'usage de petites prépositions dans le texte grec, croyez vers moi, allez dans mon sens, jetez-vous dans mes bras, appuyez-vous sur moi. Il y a une dynamique qui pousse dans la direction de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi ou auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons, hier soir, dans notre première des quatre étapes sur ce thème fidèle quoi qu'il en coûte, considéré ce prophète hors norme, Élie, alors qu'il est dans une situation qui, tout d'abord, est agréable, puisque dans un temps de crise extrêmement grave en terre d'Israël, que nous avons longuement décrit en première partie hier soir, il bénéficie d'une protection sur mesure de la part de Dieu lui-même, qui, après sa déclaration impressionnante à la cour du roi Achab, donc a entendu Dieu lui dire: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Il est caché par Dieu, et bien sûr Dieu ne fait jamais les choses à moitié, non seulement il le cache, mais il va s'occuper de sa subsistance. Il le fait de manière tout à fait extraordinaire, comme nous l'avons vu, avec des corbeaux qui sont là jour après jour en pont aérien unique dans l'histoire pour lui apporter du pain et de la viande le matin et le soir, jour après jour, tandis qu'il s'abreuve à ce torrent dans cette tranchée littéralement de Kérit, en Jordanie actuelle, dirions-nous. Alors tout commence bien. Il est tellement heureux de la bénédiction évidente, tangible, visible, d'un Dieu qui est plein de sollicitude à son égard. Et puis nous avons simplement demandé hier soir à Élie d'avoir la bonté de me céder la place. Je ne voudrais pas mettre dans la pensée d'Élie ce qui n'a peut-être pas été sa pensée, mais comme la Bible nous dit qu'il était un homme soumis aux mêmes passions, mêmes sentiments, il ressentait ce que nous ressentons, c'est Jacques 5 qui le dit dans le Nouveau Testament. Bien entendu, il est fort probable que de telles pensées lui aient traversé l'esprit. Mais par précaution, je lui ai demandé de me laisser sa place, et donc j'ai essayé de vous expliquer hier soir mes différents états d'âme lorsque, allant me brosser les dents au bord du torrent avant d'aller me coucher dans mon bon lit dans cette caverne du torrent du Kérit, j'ai eu le sentiment que le niveau d'eau avait baissé. Et donc nous sommes entrés dans cette spirale qui progressivement devient une spirale destructrice. Elle commence par une simple interrogation. Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai pris la juste mesure du niveau du torrent? Le sommeil sera peut-être un peu plus difficile cette nuit-là, parce que la question devient lancinante. Il est tellement important, ce torrent. Notre frère et ami nous l'a rappelé il y a un instant. Nous avons évoqué avec Saint-Exupéry l'importance de l'eau, n'est-ce pas? Et puis, cette spirale se développe avec des questions lancinantes. Mais qu'ai-je fait? Quel est mon péché? En quoi suis-je coupable pour que ce qui est cette bénédiction, ce signe évident de la fidélité de Dieu, diminue ainsi progressivement sous mes yeux? Et puis nous sommes passés au stade de l'introspection morbide, parce que on règle ses problèmes, on fait tout ce qu'il est possible de faire, on va demander pardon à un tel, on rectifie le tir dans tel domaine, on répare là où il le faut, et puis on s'attend à ce que tout rentre dans l'ordre et à ce que le niveau de la bénédiction de Dieu remonte. Or, il n'en est rien. Alors, on va peut-être voir quelqu'un, avons-nous dit, pour lui dire, écoute, je suis vraiment dans une situation difficile, je suis angoissé parce que les problèmes s'accumulent, ma coupe a cessé de déborder, tout est en train de flancher dans ma vie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la famille, dans le domaine de la vie professionnelle, dans le domaine de mes relations avec les miens, peut-être dans le domaine de la vie de l'église locale. Et pourtant, j'ai tout essayé. J'ai demandé pardon, j'ai réglé mes problèmes, et puis le niveau continue à baisser. Qu'est-ce que je dois faire? Et nous avons vu que plus d'une fois, ceux vers lesquels nous nous tournons et qui sont censés nous apporter une aide, un conseil avisé, sage de la part de Dieu, sans le vouloir, nous enfoncent encore un peu plus profondément dans notre perplexité, parce que les équations sont tellement faciles. Dans nos vies, est-ce que tu es sûr que tu as tout réglé? Est-ce que tu lis assez ta Bible? Est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu évangélises assez? Etc, etc, n'est-ce pas? Et finalement, on repart découragé, parce qu'on a aussi l'impression que ceux qui sont là pour nous aider ne nous comprennent pas toujours, et sont parfois tentés de suspecter l'intégrité de notre cœur, notre droiture, notre désir vraiment de marcher avec Dieu. Et alors, quand nous avons fini de nous en prendre à nous-mêmes, quand nous avons fini de nous en prendre à notre entourage, finalement il arrive un moment où nous nous en prenons à Dieu lui-même. Tout d'abord avec une certaine courtoisie, une certaine politesse, à demi-mot. Et puis comme nous prions ardemment, puisque notre ami Élie était un homme de prière, qui savait prier avec ténacité, il était persévérant, il priait en priant, dit exactement le texte de Jacques 5, et que le ciel reste désespérément sourd, que Dieu n'intervient pas, qu'il se tient dans le silence, alors nous commençons à déraper. Et le découragement cède la place à la tentation du doute quant à la fidélité de Dieu. Nous commençons à penser que notre Dieu est bien ingrat de nous laisser dans une telle situation alors qu'il n'y a plus qu'un tout petit filet d'eau là au fond du lit du torrent. Et nous lui disons ceci, mais tu vois, c'est je t'ai obéi, j'ai risqué ma vie, j'ai accepté d'obéir à tes injonctions, je suis descendu de mes montagnes, j'ai laissé ma hache de bûcheron et j'ai surgi de ta part à la cour d'Akab. J'ai risqué ma vie, j'aurais pu être immédiatement emprisonné et mis à mort. Parce que tu sais, Seigneur, que Jézabel, elle n'y va pas par quatre chemins. Et maintenant, c'est comme ça que tu me récompenses. Je suis fidèle. Et voilà dans quel genre de monnaie tu payes ma fidélité. Et finalement, le moment, hélas, arrive où nous disons, puisque tu me laisses tomber, eh bien je t'abandonne. Il faut que je m'en sorte, Seigneur. Si tu es sourd à mes cris, eh bien il faut que je trouve des solutions pour m'en sortir moi-même. Et nous avons évoqué les combines, le bricolage des solutions humaines, les systèmes D, et je le redis comme Becker, pour que personne ne pense que je suis exclu de ce que je partage avec vous. Et je vous rappelais hier soir comment quelqu'un m'avait dit après cette étude, il y a déjà bien des années en Suisse, mais moi j'aurais été tenté de construire un barrage pour retenir l'eau. Un autre, dans un entretien très sérieux de ce que Dieu travaillait dans son cœur, m'a dit, mais moi je ne peux pas faire autrement que d'être un peu malhonnête. Et c'est donc, nous l'avons vu, lorsque le torrent fut à sec, que Dieu s'est mis à parler et qu'il a donné des indications bien précises pour faire le pas suivant. D'où la première de ces cinq leçons du torrent de Kérit, leçon d'apprentissage au pied du Dieu fidèle, dans le domaine de la fidélité qui est tellement fondamental dans les Écritures. On parle peu de fidélité aujourd'hui parce que, vous le savez, hein, la fidélité n'est vraiment plus le lot du commun des mortels. Première leçon, l'épreuve du temps. Vivre dans le temps de Dieu. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec et c'est alors que l'Éternel parla. Alors je ne vais pas redonner l'étude d'hier, mais je vous donne les têtes de paragraphe. Premièrement, le Dieu fidèle est le maître absolu du temps. Dieu travaille avec le temps. Le temps est un chargé de mission de Dieu. Ensuite, Dieu intervient quand il veut. Et pour ses enfants, il intervient au meilleur moment. Mais le meilleur moment dans sa pensée n'est pas forcément le meilleur moment dans la nôtre. Et c'est là tout le problème. Et dans ce meilleur moment, Dieu intervient plus d'une fois in extremis. Et nous en avons vu un certain nombre d'exemples dans les Écritures. Nous aurions pu d'ailleurs additionner, nous aurions pu y ajouter des exemples dans nos propres vies, dans l'histoire de l'Église aussi. Et nous sommes allés même un peu plus loin, puisque nous avons souligné que, même comme ici, dans 1 Roi 17, il arrive que, non pas le mur du sang, mais le mur du temps soit franchi. Et que c'est lorsque la situation est devenue humainement insurmontable, lorsque la situation est désespérée, qu'alors, Dieu, comme nous allons le dire encore, et ce soir et demain, sort de ses capacités phénoménales des solutions auxquelles nous sommes loin d'avoir pensé. Et nous avons terminé en soulignant deux choses. Psaume 31, versets 15 et 16, mes heures, mes temps sont entre les mains de Dieu. Mes heures, mes temps sont entre les mains de Dieu. Et nous avons simplement laissé en filigrane, comme exemple, la beauté du caractère et de l'itinéraire du Fils de Dieu qui a su tout au long de l'incarnation, de ce miracle extraordinaire, de son passage ici-bas, veiller heure après heure à vivre dans le temps du Père. Tantôt pressé de devancer le temps du Père, tantôt pressé de prendre du retard sur le temps du Père. Mais qui a pu, c'est l'évangile selon Jean qui nous le dit si bien, jalon après jalon au fil des chapitres, qui a pu finalement dire « l'heure est venue ». Et qui a l'heure au temps fixé par le Père, nous disent les Écritures, a été cloué sur la croix et mort pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Et dans cette heure venue, il y a aussi ce mot qui résonne, cette expression forte. Tout est accompli. Tout est payé. Parce que tout au long de mon existence terrestre, j'ai vécu dans la volonté de Dieu, j'ai vécu dans le temps de Dieu, j'ai réglé ma montre à l'heure de Dieu. J'ai été fidèle à tous les rendez-vous que Dieu me donnait, y compris au rendez-vous le plus terrible, puisqu'à ce rendez-vous-là, il était prévu que le Père ne soit pas, et qu'à cause du péché, je sois séparé de lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, nous voulons ce soir ajouter, ou je l'espère, deux autres enseignements dans l'histoire de ce torrent. Ce que Dieu a voulu enseigner à son serviteur, à son prophète, par cette eau qui baisse de plus en plus. Je voudrais ce soir parler de l'épreuve du lieu. Vivre dans le lieu de Dieu. Vivre dans le lieu de Dieu. Pourquoi l'emphase ce soir sur le lieu de Dieu? Eh bien parce que manifestement, lorsque l'on croit que la Bible n'est pas simplement inspirée de Dieu dans le domaine des idées, mais qu'elle est verbalement inspirée, c'est-à-dire aussi dans le domaine des mots, parce que Dieu est un Dieu précis, bien entendu, non pas forcément dans le mot de notre vocabulaire français. Il faut aller voir si dans le texte hébreu, dans le texte grec ou araméen, il y figure aussi, ou qu'au moins un équivalent y est. Alors nous devons prendre garde. Or il se trouve qu'effectivement, aussi bien dans le texte hébreu que dans notre texte français, il est un petit mot qui revient à plusieurs reprises et que nous allons mettre en évidence tout d'abord au verset 4, lorsque Dieu dit à son prophète, « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Alors vous pouvez mettre de « t'y nourrir » t apostrophe y, peu importe. Vous voyez le message? C'est à cet endroit précis que tu seras nourri. Mes corbeaux sont mes chargés de mission. Je leur donne des ordres pour qu'ils te rejoignent à cet endroit précis. Et si nous continuons notre lecture, verset 9, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Une version, parfois quelque peu élastique d'ailleurs, dira là-bas. Mais peu importe, toujours cette précision, à cet endroit précis, je te demande de t'installer, de demeurer, ou reste-y, dira une autre version. Verset 9 toujours, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir, ou voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Et puis enfin, verset 10, il se leva, il alla à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Là. Vous savez, Dieu est un extraordinaire pédagogue. Plus on avance dans cet itinéraire de vie avec lui, plus on est bouleversé par ce génie de pédagogie qu'est notre Dieu lorsqu'il veut nous enseigner quelque chose. Ce quadruple là, quatre fois en quelque sorte, Dieu donne le là à son prophète. Alors j'ai pris avec moi mon diapason que je traîne depuis de longues années puisque j'ai eu la joie de diriger plusieurs chorales. Et ça, c'est mon instrument de travail. Alors moi, je l'entends bien, vous n'entendez rien. Certains entendent, n'est-ce pas? C'est le « là ». Vivre au diapason de Dieu. Vivre dans le lieu de Dieu. Vivre donc dans l'obéissance à la volonté de Dieu, et ici, plus particulièrement dans le lieu de Dieu. Dieu avait donc promis son secours à Élie en deux endroits différents, bien précis. D'une part, le torrent de Kérit, d'autre part, Sarepta. Nous dirons très simplement ce soir que ce sont là les deux points centraux de sa pleine volonté. Une remarque au passage, sans tellement nous y arrêter, parce que nous allons la développer, nous l'avons déjà évoqué hier soir, les deux ordres que Dieu donne à Élie pouvait engendrer des résistances de sa part. Nous avons évoqué les corbeaux. Nous allons y revenir. Ce n'était pas du tout évident pour un prophète qui était très à cheval sur la loi de Dieu, parce que c'est le prophète de la loi, c'est le prophète du Sinaï, c'est le prophète du jugement d'une manière toute particulière, Élie, en profond contraste avec son successeur Élisée. Et nous l'avons dit hier soir, se faire servir par des corbeaux, c'était quelque peu problématique. Oh, il n'allait pas violer la loi en étant servi de cette manière, puisqu'il était question de ne pas s'alimenter, de ne pas manger du corbeau. Mais tout de même, le corbeau est un animal impur, et nous avons évoqué hier soir que tout cela n'est pas très appétissant. Donc il pouvait y avoir et de l'incrédulité et de la désobéissance, de profonde réticence. Et puis alors, nous allons y venir quant à se rendre à Sarepta, et puis de surcroît auprès d'une femme veuve. Il y avait vraiment tout pour que notre ami Élie réponde non. Et pourtant, ces deux endroits étaient l'épicentre de la volonté de Dieu pour son serviteur. Je ne peux pas m'empêcher ici, sans m'y attarder, de faire allusion à ce qui s'est passé plus tard dans la vie d'Élie, et qui occupe d'ailleurs une partie de mon tout dernier livre qui vous sera présenté tout à l'heure, Le découragement, un chemin pour en sortir, puisque j'évoque ce drame. On peut parler vraiment d'un drame dans la vie d'Élie, cette chute vertigineuse dans les gouffres béants du découragement, de la dépression spirituelle, dans ces marécages, et où finalement, donc, saisi de panique, pris à contre-pied par cette épouvantable Jézabel, après cette victoire grisante du Carmel dans Un Roi 18, notre ami est saisi de peur, paniqué, il s'enfuit 100 kilomètres, il pénètre finalement dans le désert, il se déleste au passage de son serviteur dans la dernière ville au sud du pays. Et puis il marche encore une journée, n'est-ce pas? Il est complètement épuisé, il s'effondre sous un genêt. Et Dieu va le visiter. Un Bocuse va passer par là. Il va avoir droit à un de ces repas bédouins fantastiques. Toute la sollicitude de Dieu va se déployer à son égard, dans le domaine où il a le premier besoin physique, vital, et puis le besoin de présence. Mais ensuite, il y aura une quarantaine de jours et de nuits de marche, mais de marche tout à fait tranquille, à petits pas, en s'arrêtant fréquemment, jusqu'à ce que finalement il se retrouve dans une caverne, là, sur les flancs de cette montagne si riche d'une histoire extraordinaire, Horeb, le Sinaï. Peut-être la caverne dans laquelle Dieu avait protégé Moïse pour qu'il puisse ne pas succomber à la beauté extraordinaire mais dévorante de Dieu dans sa grâce, à la générosité, à l'amour tellement intense de Dieu dans sa gloire, que même l'amour de Dieu, s'il se manifeste dans sa perfection absolue, est insupportable à l'homme. L'homme ne peut pas y résister. On dit toujours que l'homme ne peut pas résister à la justice, aux perfections de Dieu, particulièrement dans sa sainteté, mais c'est tout aussi vrai de son amour. L'amour de Dieu est tellement insondable et puissant, extraordinaire, qu'il a fallu que Dieu prenne d'infinies précautions pour protéger son serviteur du déploiement de sa générosité absolument inouïe, de la grandeur de sa fidélité, de son pardon, de sa patience, de sa générosité. Et puis là, Élie a entendu à deux reprises une question.
Que fais-tu ici? Que fais-tu ici?
Et cette question m'a beaucoup intrigué. J'en parle dans le livre. Que fais-tu ici? Et manifestement, il y a dans cette question, avec beaucoup de tact, une nuance de reproche. Oh, il n'a pas besoin d'en dire plus. Qu'est-ce qui a fait donc que tu es ainsi dérivé jusqu'ici, en plein désert, loin de ta place de prophète? Que s'est-il passé? Et il t'a remarqué, mais je ne développe pas ici, que malgré un son et lumière extraordinaire, toute une série de tableaux, pédagogiques encore, pour que Dieu lui révèle certaines facettes de sa personne que le prophète du jugement avait finalement oblitérées, plus ou moins laissées de côté, à cause des temps difficiles dans lesquels il vit, à cause de son tempérament, à cause des pressions qui s'exerçaient contre lui, etc. Malgré la beauté du tableau final, déploiement de la grâce infinie de Dieu, quand Dieu réitère exactement la même question dans le texte hébreu, Élie répond de la même manière, exactement dans les mêmes termes. Que fais-tu ici, Élie? 25 mots dans le texte hébreu chaque fois, exactement mot pour mot, la ritournelle. Des ornières dans le domaine de la pensée. C'est si vite fait. C'est si vite fait dans nos vies de ne pas être dans le lieu où Dieu nous veut. Parce que peu à peu, dans le monde de notre pensée, nous avons développé certaines idées fausses. Mais nous les avons tellement répétées, nous les avons tellement alimentées, qu'elles sont devenues de ces mélopées, que Dieu a de la peine à ébranler pour les faire disparaître. Et il faudra là encore toute une thérapie divine pour aller plus loin. Et finalement, le moment arrive où dans 1 Roi 19, il nous est dit: Élie partit de là. Élie quitte l'endroit pour rejoindre le territoire de la volonté de Dieu qu'il avait quitté dans son découragement. Nous avons un autre texte dans Exode 15, versets 22 à 27, qui est aussi d'une infinie richesse. Exode 15, versets 22 à 27. Le tournant fantastique de la Pâque juive est encore tout récent. L'Égypte vient d'être quittée. Il y a eu le passage de la mer Rouge, le célèbre cantique de Moïse et d'Israël. Et puis, donc, cette masse de 2 à 3 millions de personnes est là, dans le désert, et il nous est dit dans Exode 15, 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, quelle déception. Quelle déception, parce que quelque chose est très frappant. Dans Exode 3, 18, Dieu a dit à Moïse de s'adresser à Pharaon en lui disant: laisse-nous faire 3 jours de marche dans le désert et nous irons adorer. 3 journées de marche. Et cette petite locution, cette petite expression va revenir au chapitre 5, verset 3, au chapitre 8, verset 23. Chaque fois, il est question de faire 3 journées de marche dans le désert pour aller adorer. Eh bien, finalement, il a fallu les 10 plaies, il a fallu la Pâque, Il a fallu la traversée de la mer et les 3 journées de marche arrivent. Et j'imagine que dans le cœur de Moïse, dans le cœur du peuple d'Israël, après ces centaines d'années en Égypte, il devait y avoir toutes sortes de pensées sur ce qui était au bout de ces 3 journées de marche. Or, au bout de ces 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Pire encore, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Je dis, c'est pire. Parce que quand enfin vous la voyez, l'eau, que votre cœur bondit, n'est-ce pas, que vous vous précipitez, que vous vous jetez à plat ventre, là, au bord de l'eau. Et c'est terrifiant de vous rendre compte subitement que cette eau est absolument imbuvable, mais c'est un supplice de tantale, c'est quelque chose d'absolument épouvantable, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, l'eau devint douce. J'aime la suite du texte. Cette unité des Écritures, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Là. Mara était dans le plan de Dieu. De même que, un peu plus loin, n'est-ce pas, verset 27, ils arrivèrent à Élim. Oh, c'est pas loin, 8 kilomètres plus loin. 8 kilomètres seulement. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. C'est encore là le doigté de Dieu, n'est-ce pas, qui tantôt nous place dans ces situations tellement inconfortables. Cela de sa volonté, et pourtant qui est fait d'eau amère, et où Dieu va intervenir en grâce à sa manière. Et puis 8 kilomètres plus loin, la généreuse abondance, parce qu'il nous faut apprendre à vivre et dans la disette et dans l'abondance. De là, épicentre de la volonté de Dieu, à 8 kilomètres de distance l'un de l'autre. Est-ce que nous n'avons pas expérimenté plus d'une fois déjà cela dans notre vie? J'ai d'ailleurs noté que dans le livre des Nombres, au chapitre 33, verset 9, il est fait référence à ce verset 27, et il est là aussi dit, ce fut là qu'ils campèrent. Ce fut là, à cet endroit, qu'ils campèrent. Peut-être vaut-il la peine, ici, sans nous y attarder, de faire remarquer que à l'aube de la formation du peuple d'Israël au désert après la sortie d'Égypte, c'est dans 3 domaines précis. Tout d'abord, que Dieu va exercer, mettre son peuple à l'épreuve en matière de fidélité, de confiance, le domaine de l'eau, le domaine du pain et le domaine de la viande. Ceci, je le tire non seulement du chapitre 15, mais du chapitre 16, puisqu'il va être question des cailles et de la manne. C'est quand même intéressant. Parce qu'il en est ainsi dans notre vie. L'école de fidélité du disciple de Jésus-Christ doit d'abord toucher à ces éléments les plus communs et pourtant les plus essentiels de notre vie quotidienne, l'eau, la viande, le pain. C'est-à-dire que nous devons apprendre à dépendre de Dieu pour les besoins fondamentaux de notre vie, en réalisant que Dieu n'est pas un distributeur automatique et que d'autre part, nous n'avons pas à gérer ce domaine fondamentale de notre vie, n'importe comment. Là aussi, le « là » de la volonté de Dieu est d'une extrême importance. Et puis, je n'y reviens pas. Nous avons lu tout à l'heure volontairement Jean 12, versets 23-26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. » Et ça, c'est un signe de nouvelle naissance. Un des signes de la nouvelle naissance, c'est que nous avons à cœur d'être là où est le Seigneur. Et je pense ce soir, au moment où je vous dis ça, à certaines personnes qui en ce moment, et à plusieurs, en fait, nous obligent parfois à nous poser la question, mais sont-elles vraiment nées de nouveau? Pour ne pas comprendre combien il est vital d'être là où le Seigneur est. Vous avez remarqué que nous avons lu Jean 14, hein, donc je vais vous préparer une demeure. Hein. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais bien aimé, il y a un lien entre les deux textes. Nous ne pourrons être là où il est en train de nous préparer une place et où nous serons avec lui que si maintenant, dans notre vie, nous prouvons notre nouvelle naissance en ayant à cœur d'être là où il est. Là où je suis, là sera mon serviteur. Élie l'avait compris. C'était difficile, c'était bourré d'énigmes. Élie pouvait très bien ne pas comprendre, se dire, mais mon Dieu, mais pardon de te le dire, mais qu'est-ce qui te prend? Comment est-ce que tu peux me demander ces choses? Des corbeaux, torrents, Sarepta, veuve. Mais là où je suis, là sera mon serviteur. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Nous devons toujours être prudents dans nos évaluations du cheminement d'autrui. Néanmoins, nous croisons parfois sur notre route des hommes et des femmes qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ, nous le croyons, dont pourtant nous doutons de leur présence à l'endroit prévu par Dieu pour elles. Et je pense ici à quelqu'un qui nous est cher, à mon épouse et à moi, qui manifestement à un moment donné a manqué un grand rendez-vous, a refusé d'être là où Dieu voulait cette personne et qui en a souffert depuis, parce qu'on ne peut être heureux que dans l'épicentre de la volonté de Dieu. Alors bien entendu, le là de la volonté de Dieu, nous n'allons pas détailler tout cela, s'obtient par le téléphone, parce que vous savez que nos téléphones fixes nous offrent le là. Si vous n'avez pas de piano, allez écouter la sonnerie de votre téléphone, en tout cas la sonnerie continue, et vous aurez le là. Et pour nous, c'est la vie dans l'intimité de Dieu. Élie le dira, à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'il se présentera dans un roi 17, dans le texte hébreu. C'est pour cela que parfois c'est un peu dommage d'escamoter. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, que j'aime cette formule littérale, devant qui je me tiens. Je ne vois pas tellement pourquoi on changeait. Parce qu'aujourd'hui encore, on sait ce que ça peut vouloir dire de se tenir devant quelqu'un, n'est-ce pas ? Un homme qui se tenait devant Dieu. Un homme qui vivait dans la présence de Dieu. L'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs, il leur révèle son alliance, psaume 25, 14. Encore l'intimité, la pensée cachée, secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. En tout cas, comme le disait un homme de Dieu, auteur d'un commentaire remarquable sur un livre de l'Ancien Testament, nous devons vibrer au diapason de Dieu si nous voulons être capables de distinguer sa volonté de la nôtre. Il n'y a pas de truc. C'est là que vous et moi, nous sommes le plus attaqués. Et il y a aussi un lieu de Dieu. Il y a le là du lieu de Dieu pour nos rendez-vous quotidiens avec Dieu. Et croyez-moi, demandez à Jacques, demandez à Daniel et à ceux qui sont dits dans le service à temps complet, mais nous sommes tous dans le service à temps complet, mes amis. Nous sommes attaqués dans ce domaine. Il n'y a pas que dans la vie professionnelle séculière que l'on est attaqué dans ce domaine. Tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, quelle que soit leur place dans l'Église de Jésus-Christ, quelle que soit leur fonction, sont terriblement attaqués. Et aujourd'hui plus que jamais. Et vous savez, mes bien-aimés, j'aimerais le dire ce soir, nous vivons dans un monde qui est en train de devenir tellement hostile à Dieu, à un véritable christianisme, qui est en train de tellement rejeter ces valeurs fondamentales qui ont pourtant marqué pendant un certain temps notre société européenne, que nous ne pouvons, mais je dirais moins que jamais, nous permettre le luxe de nous relâcher. Parce que les pressions sont tellement fortes et insidieuses, l'atmosphère est tellement polluée que, mes amis, très vite, nous nous écartons très loin du Seigneur. Je n'hésite pas à le dire. Il y a beaucoup de naufrages par rapport à la foi dans l'Église de Jésus-Christ en ce moment. Parce qu'on pense qu'on peut vivre un petit christianisme amateur, dilettante. Surtout pas trop. Le SMIC, ça suffira. Mes amis, avec Dieu, le SMIC de la vie chrétienne ne suffit pas. Être au centre de la volonté de Dieu, ça coûte. On ne comprend pas toujours. Quand on est en face de ces torrents de kérite qui sont en train de s'évaporer à toute allure. Et pourtant, quelle belle expérience cela a valu à Élie. Mes amis, pourquoi est-ce que nous ne voyons plus trop souvent dans nos vies les actes providentiels de Dieu, ces actes percutants qui vous marquent, que vous prenez plaisir à raconter à la génération qui vient? Pourquoi? Mais parce que précisément, nous en sommes arrivés au stade où nous multiplions les combines en pensant que notre Dieu n'a plus la capacité d'intervenir dans des situations difficiles. Reconnaissons-le, n'est-ce pas? Mais c'est si beau de pouvoir raconter simplement, humblement, comment Dieu est intervenu de manière inattendue. Moi, je pense à ces moments merveilleux que nous avons passés avec nos enfants, parfois simplement autour de la table, à raconter les expériences du passé, y compris lorsqu'ils étaient trop petits pour en saisir toute la portée, leur dire comment Dieu était intervenu lorsque nous étions dans ces situations désespérées. Mais vous savez, ça aide l'enfant, l'adolescent ou ceux qui nous entourent à prendre conscience que nous avons affaire à un Dieu vivant, puisque c'est un des thèmes de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Nous le disions hier soir, n'est-ce pas? L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. 28 actes providentiels extraordinaires dans la vie d'Élie et d'Élisée, n'est-ce pas? Dans cette période la plus sombre de l'histoire d'Israël. Nous devons vibrer au diapason de Dieu si nous voulons être capables de distinguer sa volonté de la nôtre. Il y a des années de cela, une station de radio recevait une lettre d'un berger qui vivait sur un ranch isolé dans l'ouest des États-Unis. La station n'avait jamais reçu une telle requête. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le la sur le piano de votre studio? Il n'y a pas de piano près de chez moi et le seul réconfort que j'ai dans la vie, c'est mon violon. En ce moment, il est désaccordé. Pourriez-vous me donner un « la » pour que je puisse l'accorder à nouveau? C'est sans doute une prière que nous devrions faire, Seigneur. J'ai besoin de retrouver le « la ». Dans un entretien au téléphone aujourd'hui avec un ami vraiment rétrograde qui revient de loin, il me disait son bonheur d'avoir retrouvé ses tout derniers jours, d'avoir retrouvé Dieu. C'était émouvant, c'était ce soir, presque avant de venir ici. Son bonheur d'avoir retrouvé Dieu et de réaliser dans la situation qu'il vit en ce moment la présence vivante et sensible de Dieu. Ses conseils, ses directives, ses indications pour avancer pas après pas sur un chemin hérissé d'énormes difficultés que Dieu a permises aussi par certains côtés, ou dans lesquels en tout cas il a été, pour que ce cher ami en situation de crise redonne à son Dieu la place qui lui revient. Alors je ne vais pas évoquer tous les points de repère pour le discernement de la volonté de Dieu, d'autant plus que le livre Fidèle quoi qu'il en coûte contient tout un chapitre qui traite uniquement de ce là, peut-être même deux chapitres, ce lieu de Dieu et tous les éléments de la recherche de la volonté de Dieu. Mais ce que j'aimerais souligner avant de débaucher peut-être la leçon suivante, c'est ce fait que être là où Dieu nous veut, c'est une force extraordinaire dans nos épreuves. Ce qu'Élie pouvait dire, lorsque le niveau du torrent baissait, c'est ceci: je suis près du torrent de Kérit, sur ton ordre, Éternel. Donc, ô Éternel, le problème du torrent, c'est ton affaire à toi. Parce que c'est toi qui m'as placé là où je suis. Ça, c'est formidable. Quel soutien d'être là où Dieu veut que nous soyons. Et j'ai retenu dans un livre remarquable aussi cette pensée, la volonté de Dieu ne vous conduira jamais là où sa grâce ne peut vous garder. Quelle que soit la difficulté du lieu, de la situation dans laquelle Dieu permet que nous soyons placés, soyons certains qu'il dispose en notre faveur d'une grâce surabondante, correspondante à notre besoin dans notre situation. Pourquoi voudriez-vous que Dieu me donne une mesure de grâce absolument surabondante si je n'en ai pas besoin maintenant? Je pense ici à l'instant à ce que disait le papa de Corrie ten Boom, cette femme de Dieu, vous connaissez l'histoire, à Ravensbrück, dans ce camp de déportation où 96 000 femmes sont mortes. Et Corrie en a réchappé. Et quand elle était enfant, et donc qu'elle ignorait, comme chacun de nous, tout son avenir, en particulier de ce camp de déportation terrible, après être allée avec ses parents voir une famille endeuillée de ses amis, avoir vu pour la première fois la mort sur un lit. Ce soir-là, en se couchant, Corrie sanglotait. Parce que, au lieu de voir cette personne morte, elle imaginait que ce soit son papa. Et donc, dans de terribles sanglots, elle a dit, mais papa, je ne pourrai jamais supporter de vivre une telle situation. Et son papa, qui était un homme de profonde sagesse et de bon sens, il a dit, mais Corrie, tu sais, quand nous allons prendre le train tous les deux, est-ce que j'achète le billet 10 jours, 20 jours avant? C'était à cette époque, comme autrefois on le faisait en France, où on achetait le billet juste avant de monter dans le train, et puis il y a les contrôleurs à la sortie de la gare qui s'en occupaient, etc. Et est-ce que on prend le billet 10 jours, 15 jours, 20 jours avant? Mais non, papa. C'est en montant dans le train qu'on prend le billet. Et ce père, de dire, ben tu vois, Corrie, quand tu devras monter dans ce train-là, qui te fait peur, dans le train de la souffrance, eh bien Dieu te donnera le billet. Tu n'as pas besoin du billet avant. Dieu te le donnera lorsque tu en auras besoin. Être là où Dieu nous veut. Quelle force dans l'épreuve. J'évoque dans Fidèle quoi qu'il en coûte cet exemple pris par un pasteur sud-africain qui a eu un ministère merveilleux en Afrique du Sud, qui nous a laissé un seul livre, enfin quelques-uns, mais qui ne sont plus publiés depuis longtemps, et qui, évoquant les 4 ancres qui ont été jetées par les matelots à la poupe du bateau en perdition sur lequel Paul, prisonnier, voguait vers Rome, a écrit ceci. Donc sur la base d'Actes 27-29, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Premièrement, première ancre, dites, c'est lui qui m'a amené où je suis. C'est sa volonté que je passe par cette épreuve. Je fonde sur ce fait ma paix intérieure. Il m'y gardera deuxièmement dans son amour et me donnera la grâce d'agir comme le doit son enfant. Troisième ancre, il transformera cette épreuve en bénédiction. Il m'apprendra les leçons qu'il jugera nécessaires. Quatrièmement, au temps favorable fixé par lui, il m'en fera sortir de la manière dont il l'a prévu. Et en résumé, je déclare donc, premièrement, je suis ici par la volonté de Dieu. Deuxièmement, je suis sous sa garde. Troisièmement, je suis à son école. Quatrièmement, j'y resterai le temps qu'il aura fixé. Et en fait, c'était exactement l'expérience de l'apôtre Paul dans cette rude épreuve. Il se savait sur ce bateau au cœur de la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, vu la difficulté, la crise qui sévissait sur le bateau, le lui a révélé. Acte 27, verset 23-24, m'a dit, mais écoute, tu es à ma place, au bon endroit. Il faut que tu comparaisses devant César. Et je t'ai donné tous ceux qui sont sur ce bateau. Ça a été difficile. Il a été éprouvé avec les matelots, avec les autres prisonniers, avec les soldats, au point qu'effectivement, quand il a débarqué, certainement, il a eu un temps pendant lequel son courage a dû quelque peu fléchir, puisque de je ne sais pas combien, entre 40 et 50 kilomètres, sinon un peu plus, de Rome, sont venus vers lui des frères qui ne le connaissaient pas, et qui n'avaient pas rencontré. Mais le texte biblique dit que, en les voyant, Paul prit courage. Ça veut dire qu'il était dans un moment difficile. Mais il se savait au cœur de la volonté de Dieu. J'ai ici un si beau témoignage. C'est un épisode de l'histoire d'un pasteur chinois qui a passé 18 années de sa vie en prison pour sa foi. Et c'est en 1991 qu'il rendit ce témoignage remarquable. Les autorités m'avaient affecté à la vidange de la fosse des os. Elles n'imaginent pas combien j'ai apprécié de travailler là pendant ces années. Il n'y était pas par erreur. À cause de sa foi. Et il pouvait dire, n'est-ce pas, témoigner que ces autorités n'imaginent pas combien j'ai apprécié de travailler là pendant ces années. Il explique. C'était une fosse de 2 mètres de côté, remplie d'excréments humains. Je devais descendre dans cette masse nauséabonde et coper sans arrêt. Pourquoi ai-je pu me réjouir d'accomplir cette corvée? Dans le camp de travail, les prisonniers étaient normalement étroitement surveillés par des gardes, mais l'odeur du cuisard maintenait les gardes et les prisonniers à bonne distance. Je travaillais donc seul, ce qui me permettait de prier le Seigneur à haute voix quand j'en avais besoin. Je pouvais réciter des passages entiers de l'Écriture, ainsi que tous les psaumes dont je me souvenais, sans que personne ne puisse protester. Je pouvais chanter à voix haute tous les cantiques qui me revenaient à la mémoire. En chantant dans la fosse des anses, je faisais l'expérience de la proximité du Seigneur. Cette fosse devint mon jardin privé où je rencontrais le Seigneur. Le là d'une volonté de Dieu tellement difficile à vivre. Bien pire que la privation des eaux du torrent de Kérit. Mais une fosse d'aisance dont Dieu a fait le jardin privé pour les délices de son serviteur persécuté. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et que lui seul fait sur cette terre. Pour ceux qui ont vraiment à cœur de vivre dans le là de sa volonté. Alors, nous ne toucherons pas au point suivant, ce sera pour demain matin, mais parce que j'aimerais quand même, en terminant, tant soit peu essayer de répondre à une question lancinante que quelqu'un parmi nous, que quelqu'un qui va écouter la cassette, va se poser. Et je ne voudrais pas, dans ce temps de réflexion de la part de Dieu, laisser l'avantage à la puissance des ténèbres, aux destructeurs, aux menteurs, aux calomniateurs, aux diviseurs, à l'accusateur, aux démoralisateurs, dont nous n'ignorons pas les desseins. Et cette question, qui peut surgir dans notre cœur parce que peut-être le Saint-Esprit en nous est en train de dire mais tu sais, tu es à côté de la plaque. En fait, tu fais une quantité de choix sans me consulter. Tu te retrouves dans des situations absolument inextricables et tu as encore l'audace de m'accuser d'infidélité. Si je ne suis pas dans le « là » de Dieu, si j'ai joué une autre note, si j'ai été infidèle, si je suis sorti de sa volonté, si j'ai commencé à utiliser les coups de pouce charnels, le système D, ces situations de type ismaélite, disions-nous hier soir, suis-je irrémédiablement condamné à graviter dans l'orbite glacée de mon infidélité? Parce que vous le savez, c'est si souvent ce que l'ennemi tente de nous faire croire. Tu es condamné. Tu es allé trop loin. Pas plus tard qu'hier. J'avais un jeune homme, 23, 24 ans, au téléphone aussi. Ce n'était pas la première fois. Nous travaillons ensemble depuis un certain temps avec un problème particulier. Il en sort peu à peu. Et hier soir, il était à nouveau travaillé par ce sentiment très profond qu'il avait de blasphémer contre le Saint-Esprit, d'être condamné pour l'éternité. Et il était torturé dans son cœur. Nous avons passé un bon bout de temps parce qu'il y avait rechute. Et je lui dis, mais tu sais, tu es en train de donner une fois de plus la preuve que tu n'es pas du tout concerné par ce problème. Parce que quelqu'un qui est complètement endurci, qui se moque éperdument de Dieu, qui repousse le salut, qui repousse le sauveur, qui se moque de tout cela, mais il ne se pose pas du tout les questions que tu te poses. Si tu es travaillé dans ton cœur, tu donnes la preuve qu'au contraire, tu as besoin de Dieu, que pour toi le besoin de Dieu et de Jésus-Christ est vital, tu aspires à de l'oxygène, c'est pour ça que tu cries, et tu prouves que tu es vivant. Ça l'a soulagé. Ça l'a soulagé. Dieu demeure immuablement fidèle. C'est cela aussi fidèle, quoi qu'il en coûte. Généralement, on comprend le titre du livre, fidèle, oui, toi, en tant que croyant, quoi qu'il t'en coûte, n'est-ce pas? Et on oublie, et je n'en veux à personne, c'est volontairement ambigu au débat. Pourquoi? Parce que ça vise d'abord Dieu. Dieu a été fidèle, quoi qu'il lui en a coûté. Et il est encore fidèle aujourd'hui, quoi qu'il lui en coûte, pas au niveau de la croix, mais parce que Dieu n'est pas apathique, Dieu n'est pas insensible. Dans les religions mondiales, il y a des quantités de divinités qui sont apathiques, insensibles, lointaines, n'est-ce pas, mais pas Dieu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est le Seigneur glorifié qui parle. Il était persécuté parce que tête d'un corps qui s'appelle l'Église, quand le corps est persécuté, la tête est persécutée. Il souffre. Nous avons un Dieu qui souffre. Et il est fidèle quoi qu'il lui en coûte. Chaque fois que je commence à marcher de travers, Dieu souffre. Mais il reste fidèle. Là où, quand nous souffrons, nous sommes tentés par l'infidélité. Là où certains se dégonflent dans leur relation avec Dieu lorsqu'ils commencent à avoir quelques petits problèmes dans leur vie, n'est-ce pas ? Il en faut si peu aujourd'hui. Dieu, lui, ne se dégonfle pas. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même de Timothée, chapitre 2, verset 13. N'est-ce pas notre Dieu qui disait précisément sur le Sinaï à un certain Moïse qu'il est riche en bonté et en fidélité? Fidélité, en hébreu émet, un mot extrêmement riche. qui a la même racine que notre mot Amen. L'émouna, la vérité, la fidélité, la solidité, la stabilité, la fiabilité de Dieu, émet. Même racine, traduit tantôt par vérité, tantôt par fidélité, solidité, stabilité, constance, ténacité. Et ce qui est intéressant, c'est que les rabbins font remarquer qu'il est écrit en hébreu, donc, ce terme, avec trois lettres de l'alphabet hébreu. La première lettre, puis la lettre médiane, exactement celle du milieu de l'alphabet, et la dernière lettre de l'alphabet. Première, celle du milieu, et la dernière, et qu'ainsi ce mot embrasse la totalité de l'écriture, comme si l'ensemble des écritures de la Genèse naît à l'Apocalypse, de l'alpha à l'oméga, de la parole révélée de Dieu, était un hymne à l'incommensurable fidélité de Dieu. Fidèle Père, il l'est, pour ne jamais abandonner son enfant. Et je l'ai rappelé à mon cher ami, hier, mes brebis, nul ne peut les ravir de ma main. Le Père me les a donnés, il est grand, tandis que je suis sur cette terre, il est même plus grand que moi. Je lui suis subordonné, j'ai accepté de me dépouiller volontairement de cette égalité avec Dieu dans cette vie sur la terre. J'ai accepté des limitations dans l'espace, dans le temps. Le Père est fidèle. Je suis fidèle. Mes brebis, nul ne les ravira de ma main. Fidèle est le Père pour nous reprendre et pour nous corriger avec amour. Hébreux 12, 5 à 11. Et puis, ce verset du psaume 119, 75, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as uni. » Fidèle et juste, il l'est pour me pardonner et me purifier de chacune de mes fautes, dans la mesure où je confesse mon péché, l'abandonne aussitôt. Fidèle pour gérer avec nous les conséquences de nos infidélités. Et combien de fois il m'est arrivé de devoir le dire ces dernières semaines, à des amis écrasés, sous le poids de leur culpabilité, de leur infidélité, parfois catastrophique, mais qui voulait régler avec le Seigneur. Et de pouvoir leur dire, certes, il y a des conséquences. Et le pardon de Dieu n'annule jamais les conséquences, parce que nous n'apprendrions rien s'il n'y avait pas des conséquences à gérer. Mais ce qui est incompréhensible, tant cela est beau et mystérieux à la fois, c'est que Dieu prend en charge ses conséquences. Il les assume avec nous. Il permet dans sa parfaite souveraineté, dans son amour, qu'elles deviennent porteuses de fruits d'en haut. Féconde, utile, même si nous continuons à en souffrir peut-être jusqu'à ce que nous soyons auprès de lui. Celui qui tue quelqu'un, son pardon, le pardon de Dieu ne ramènera pas la personne à la vie. Et il est certain que jusqu'à la fin de ses jours, il restera une zone sensible. On parle tant de guérison, mais parfois on va tellement loin dans ce domaine, il faut quand même avoir un peu de bon sens. Et ce sont autant de signaux qui restent dans nos vies pour nous rappeler notre vulnérabilité, notre facile propension au mal, notre immense fragilité, notre besoin de dépendre de Dieu. Heureusement, finalement, qu'il y a cela. Mais combien c'est heureux que, parce que nous avons souffert à cause de choix regrettables, profondément regrettables, une fois que les choses sont réglées avec Dieu, et quand c'est nécessaire avec le prochain, Dieu nous utilise pour en aider d'autres qui passent par là. Il a certainement fallu que je connaisse 7 mois de dépression terrible, suivi de 2 années de remise en forme entre l'âge de 16 ans et de 18 ans, pour que Dieu me rende particulièrement sensible aux souffrances liées au découragement, à la dépression. Et peut-être que Barnabas, tu m'encourages, est un peu issu de là. Peut-être que Fidèle, quoi qu'il en coûte, est un peu issu de là, bien qu'il y ait d'autres éléments plus proches qui ont été très douloureux. Et peut-être que le dernier livre, tout ça, c'est lié aussi à des conséquences, mais qui nous font sympathiser avec l'autre, qui nous font comprendre l'autre, qui nous font nous identifier, mieux nous incarner dans l'autre. Une fois que le problème du péché proprement dit est réglé dans nos vies. J'ai dans ma manuscrit cette inscription en caractère gras. Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes. Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes. Et il est aussi fidèle pour nous affermir et nous préserver du malin. 2 Thessaloniciens 3:3. Il nous rend aussi attentifs aux ruses de la puissance des ténèbres, de manière à ce que, sans nous appesantir sur la puissance des ténèbres, qui ne mérite pas cet honneur-là, néanmoins, nous avons à cœur, jour après jour, de veiller au revêtement de la panoplie d'en haut, de cette armure, que nous portons non seulement individuellement, mais ensemble en tant qu'Église, dans la solidarité réciproque, combattante ensemble, en face d'un ennemi qui attaque, mais qui a été vaincu à la croix. Alors, souvenons-nous simplement de ces divers aspects du là de Dieu, mis à l'épreuve dans le domaine du lieu, l'épreuve du temps, disions-nous hier soir, l'épreuve du lieu, nécessité pour moi d'être là où le Seigneur est. Et si je n'y suis plus, nous avons entendu ce soir quelques éléments clés des Écritures pour que nous ayons à cœur de revenir, et si c'était trop dur de le faire tout seul, là aussi l'Église est faite pour nous y aider. Des frères aînés, des sœurs aînées qui aiment le Seigneur, qui ont suffisamment de maturité, de neutralité aussi. Pas de neutralité prête à tout accepter sans courageusement dire ce qu'il faut dire, mais de neutralité dans ce sens que, vous savez, on est toujours tenté d'aller d'abord vers ceux qui vont nous caresser dans le sens du poil. Et heureux le frère et la sœur qui est beaucoup plus préoccupé de nous aimer vraiment au point d'être prêt à nous dire courtoisement mais fermement une vérité difficile peut-être à entendre, mais parce que il nous aime tellement qu'il est prêt à être moins aimé de nous dans un premier temps. À Alors demain matin, nous verrons la troisième dimension d'enseignement du torrent de Kérit. Elle est belle. C'est l'épreuve du silence. L'épreuve du silence de Dieu. Parce qu'il est vrai que nous avons aussi bien des problèmes avec le silence aujourd'hui. Dans notre monde de plus en plus bruyant, nous voulons prier. Seigneur, encore une fois, merci de ce qui est arrivé à Élie, caché par ton amour au torrent Kérit, est inscrit dans ta parole pour nous servir d'exemple. Merci. Merci pour tout ce que nous pouvons apprendre et qui est tellement compréhensible parce que cela s'incarne dans la vie d'un de tes serviteurs que nous rencontrerons là-haut. Seigneur, merci. Nous pouvons fort bien, sans pousser c'est trop loin notre imagination, prendre la place d'Élie, être là au bord de ce torrent. Et en tout cas, te bénir en te disant, Seigneur, le niveau du torrent descend, mais c'est toi qui m'as envoyé ici. Je suis ici de par ta volonté. Alors Seigneur, avec un infini respect de ta personne adorable, je sais que c'est là ton problème et que ce n'est pas le mien. Je te remets ma situation alors que je ne comprends pas ce qui se passe et que j'ai ce sentiment que tu restes désespérément silencieux. Néanmoins, je suis là où tu veux que je sois. Et Seigneur, nous te prions les uns pour les autres, tout en pensant aussi à d'autres personnes que nous côtoyons. Seigneur, si quiconque parmi nous se trouvait à un endroit qui te fasse lui poser cette simple question, mais que fais-tu ici ? Merci. Merci, Seigneur, de nous conduire dans un cheminement qui nous fasse quitter ce dans quoi nous sommes, pour reprendre le chemin avec toi, revenir dans l'itinéraire de la plénitude de ta volonté, même si cet itinéraire nous fait retraverser une partie du désert dans lequel nous avons fui. Mais notre regard sur ce désert sera différent au retour de ce qu'il a été à l'aller. Alors merci de continuer à parler à nos cœurs. Merci de conduire à mettre notre volonté en harmonie avec la tienne. Ce sera là notre bénédiction de ta part. Et nous nous en réjouissons de tout notre cœur en Jésus-Christ.